Chiminyundo, kamuna par.
Il est 19h30 légèrement passé sur Radio Grenouille. Radio Grenouille qui ce soir se trouve à Saint-Mauran au comptoir Toussaint Sainte-Victorine à l'occasion de la présentation de la programmation du festival Marseille 2013 Off. Une présentation qui a eu lieu il y a eu à peu près une petite heure. Un comptoir Sainte-Victorine Toussaint noir de monde pour écouter les organisateurs de ce festival donc décrire ce qui va se passer en off pendant toute l'année 2013 et d'ailleurs quelque chose qu'ils ont commencé depuis 2004. On se souvient de ces trois d'une agence de communication qui avait commencé par déposer un nom de domaine sur internet et qui de fil en aiguille se retrouve à organiser toute une année de manifestations. On avait suivi aussi l'année dernière l'appel du Vallon des Off et puis les trocades, le trompe-l'œil à la Fiesta des Suds et encore d'autres choses, match de Zarafa à la Girafe l'été dernier avec l'équipe de Gaston Defer, puis finalement c'est Jean-François Chounier qui avait gagné. Donc on va passer une heure en compagnie de Michel Guéraud du Ravi sur Radio Grenouille en direct et en public du comptoir Sainte-Victorine à Saint-Mauron pour débattre d'une question hautement importante, c'est Marseille 2013 le off, pourquoi faire exactement. Pour parler de cette question avec nous, il y a Sam Kezibi, qui est de l'association Les Têtes de l'Art et qui s'occupe pas mal de ce comptoir Toussaint cette Victorine. Il y a également avec nous Eric Pringles, qui est un des trois organisateurs de ce 2013 off. Philippe Carrez, lui, est écrivain. Il est le papa de Martin Carrez, qui est le second organisateur du off. Et il est réalisateur, il est parrain du off, parmi une dizaine d'autres parrains, dont Rudy Ricciotti, qui est là ce soir, qu'on a aperçu. Il y a peut-être aussi Jean-Jacques Surian, bon voilà. Emmanuel Germont est artiste et est également avec nous. Il a plusieurs projets, Emmanuel Germont, dont un qui commence la semaine prochaine aux variétés, une sorte de ballon d'essai de son festival international du film Tian. Donc il pourra nous parler de ça. Jean-François Chounier est également avec nous, le directeur de Marseille-Provence 2013. Alors, on ne dit pas le in, on dit le on, j'ai cru deviner ça tout à l'heure. Et également avec nous, Vincent Palazzio, qui va organiser un festival Fossé à Rock. Voilà, je ne connaissais pas son visage, c'est chose faite. Donc, une heure pour parler de ce Marseille 2013 off. Pourquoi faire exactement ? À quoi sert un off dans cette année capitale européenne de la culture ? Mais peut-être pour commencer, Sam Kezibi, avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, bon, vous l'avez fait tout à l'heure lors de la conférence de presse, mais je pense que ceux qui nous écoutent en ce moment à la radio n'étaient pas présents, quels sont les liens de ce comptoir Toussaint cette Victorine avec le off ? Pourquoi accueillir le off ce soir ? Et où en est ce lieu ? On avait suivi il y a quelques années les difficiles négociations au moment où il y avait eu ce projet de vente par le promoteur à Kaufman & Broad. Puis finalement, la ville de Marseille avait acheté. Il y a encore des difficultés, vous en avez fait part tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de tout ça, s'il vous plaît, Sam ?
Ah bah écoutez, le comptoir Toussaint-Victorine, c'est avant tout un espace symbolique. Et la conférence de presse du HOF ne pouvait que se faire ici. Ils n'avaient pas le choix. De toute façon, on aurait dynamité l'autre endroit où ils auraient essayé de le poser. Pourquoi c'est un espace symbolique ? Parce que tout simplement, la préemption, la sauvegarde du site du comptoir a été décidée le jour de la déclaration de candidature de Marseille-Provence 2013 à l'Opéra, en décembre 2006. Donc, force est de constater que le lieu comptoir Toussaint-Victorine est irrémédiablement lié, fortuitement lié à cette année capitale. Bon, ce qui est dommage, c'est que M. Latarget soit jamais venu découvrir le site alors qu'on l'avait préempté ce jour-là. Mais Jean-François Chounier répare cet oubli et parce qu'il est présent sur le site et découvre l'intérêt et la beauté du site. Le comptoir Toussaint-Victorine, c'est une friche industrielle comme il y en a beaucoup dans les pourtours du port. Ici, pour faire un renvoi à la friche de la Belle de Mai qui accueillait la Saïta, donc les cigarettes. Ici, c'était une manufacture d'allumettes montée en 1860. C'est devenu ensuite, dans les années 1900, un comptoir à épices. D'où le nom Le Comptoir. Et ensuite, ça a connu sa petite vie avec des installations d'entreprises, etc. Avec une caractéristique très particulière, c'est que c'est un lieu de pluriactivité. Ce n'est pas un projet d'installation massive, politique, avec on va investir cette friche, on va la squatter, etc. Je prends souvent l'exemple du HLM. C'est des gens qui se sont posés dans ces bâtiments. Moi, j'ai une activité commerciale. Moi, j'ai une activité socioculturelle. Et on s'est rencontrés, on s'est découverts comme dans un HLM entre voisins. Ta voiture, elle est garée au milieu, tu me fais chier. Ou bien, viens boire un café. Et on a fait connaissance comme ça. Et de là, l'identité du site est née. C'est-à-dire qu'on a compris que l'important, c'était de ne plus penser des sites de manière uniforme en disant là c'est un temple de la culture, là c'est une activité industrielle ou de service. Il faut surtout dans ces quartiers-là de la mixité d'activités, du croisement, et on pense que c'est un des aspects importants et de la spécificité du comptoir.
C'est donc le projet du comptoir. Alors comme si le off ne suffisait pas, comme si le on ne suffisait pas, comme si le alter off ne suffisait pas, vous faites un out 2013. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Le out 2013, c'est pas une idée farfelue. Elle est pas née comme notre cher candidat président, une idée à la minute. C'est quelque chose qu'on a maturé depuis longtemps. Encore une fois, ça a démarré en 2006. Le lien avec l'année capitale, il est fort. Le out, la première rencontre que j'ai eue avec l'équipe du out et avec Eric, avec du off et Eric, c'était de dire attention, moi, un des risques que je vois au off, c'est que je pense que le off sert les intérêts du in. Parce qu'à un moment donné, un in va pouvoir dire regardez, il y a un espace de liberté. Puisqu'il y a un off qui existe et que les artistes marseillais peuvent s'exprimer librement, notamment au travers du off. Évidemment, j'ai vu par la suite dans la rencontre que l'équipe portait beaucoup de choses. Mais c'était surtout cette idée de se dire, moi, ce que j'ai envie de porter, c'est pas de la programmation alternative, c'est du débat. On a manqué de débat autour de cette année capitale, et non pas dans une vision ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, c'est juste un espace de débat où chacun peut exprimer ce qu'il attendait, ce qu'il attend, ce qu'il projette autour de l'année capitale. Et nous, on va porter que du débat politique en lien avec le off qui va gérer l'aspect programmatique. Donc la logique du 1 plus 1 est égal 3.
Michel ?
On est déjà dans le thème de cette émission. Hein. Ça sert à quoi le off ? Donc ça sert à faire quoi ? À se définir par rapport au in ?
Non, pas du tout. Le off a la particularité d'être né avant le in. Donc il n'avait pas à se positionner par rapport au in. Il a trouvé son nom, il a été obligé de trouver son nom après les premiers renforts de communication du in. Donc il a dû, le off s'appelait Marseille 2013 tout simplement, il a dû changer de nom pour s'identifier plus clairement. Et donc avant l'apparition du in, le off, ex-Marseille 2013, c'était avant tout mettre un pied dans cet événement-là et renforcer le pouvoir des artistes. Donc c'était pas du tout refuser ou c'était pas du tout empêcher ou critiquer l'événement en tant que tel. C'était plutôt se joindre aux forces pour faire un événement que tout le monde peut partager de la même manière. Donc l'expérience que certains d'entre nous avions de Bruxelles 2000 par exemple et de Lille 2004 avait montré que les artistes étaient malgré tout un peu en fin de course, un peu au guichet. Et on a souhaité que ça se passe autrement ici. Malheureusement, ça s'est un peu reproduit. Donc le off vient essayer de réparer cela. Voilà, donc de faire de l'entrisme, de l'opportunisme, de pousser ces artistes vers le haut, qu'ils profitent autant que les autres de cet événement.
Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que classiquement, dans les capitales européennes, il n'y a pas de off. Qu'est-ce qui fait qu'à Marseille, ça se structure comme ça?
C'est Marseille. voilà, je sais pas.
Alors peut-être on va poser la question à Jean-François Chounier, parce qu'on se dit, en regardant les précédentes capitales européennes de la culture, que partout ce dispositif est arrivé à créer du consensus. Il n'y a jamais des acteurs culturels qui se sont dit non, nous on n'est pas là-dedans, on est en dehors, on va faire autre chose, etc. Ici à Marseille, il y a un off, il y a un alter off, il y a un out. Pourquoi Marseille, capitale européenne de la culture, n'a pas réussi à créer ce consensus ? Et est-ce que la spécificité locale, le Marseillais frondeur, etc., ça explique tout ou est-ce qu'il y a autre chose ?
Bah, écoutez, je crois que déjà pour rectifier l'histoire, les capitales européennes n'ont pas toutes créé du consensus. Après, parfois, avant, rarement. Lille 2004, qu'on cite souvent en exemple parce que c'est le dernier exemple français en date, a eu une année 2003, si vous en parlez avec eux, qui est largement aussi controversée que la nôtre. Les capitales de cette année, Guimarães au Portugal, si vous lisez la presse portugaise, vous direz un tout petit peu autre chose.
Mais c'est jamais allé jusqu'à une formulation comme ça se passe à Marseille.
Je dirais que c'est parce que Marseille est sans doute plus mature que d'autres villes. C'est-à-dire qu'il y a eu dans beaucoup de villes, il y a eu beaucoup de off non organisés qui a beaucoup râlé et beaucoup protesté. Ça, c'est connu. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'il y a justement une logique qui consiste à dire on n'attend pas tout des pouvoirs publics, on n'attend pas tout des structures officielles, forcément un peu casse-pieds, institutionnelles, tout ce que vous voulez, et on s'organise et on prend notre réflexion en main. Je trouve que c'est un signe de maturité. Je crois que c'est ça la grosse différence. Et puis, on n'est pas loin d'Avignon. Donc, la notion de in et de off, elle date de 1966. Et Jean Villard n'a pas particulièrement détesté l'existence d'un off à Avignon. Donc, je crois qu'il y a ces deux raisons-là.
Jean-François Chounier, vous avez adhéré au off ?
Oui. Tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, alors le off sert le in, comme disait Sam tout à l'heure, pourquoi adhérer et pourquoi faire adhérer donc le
je pense qu'il faut pas
directeur du in.
Je veux dire, on n'est pas la capitale européenne de la culture, c'est pas une machine qu'on sert avec des intérêts, j'entendais ça tout à l'heure. Franchement, ou alors c'est de l'intérêt collectif, donc la notion d'intérêt, on n'est pas un producteur en train de faire du business quand il y aurait des intérêts à défendre, pas du tout. On est en train d'essayer de faire notre métier du meilleur qu'on peut, c'est-à-dire organiser un événement très complexe, très multipolaire, enfin ça tout le monde le sait. Bon, donc en tant qu'individu, personnellement, je me suis bien marré tout à l'heure en écoutant la conférence de presse, peut-être beaucoup plus qu'à notre présentation officielle, certainement beaucoup plus qu'à notre présentation officielle. Bon, je veux dire, en tant qu'individu, j'ai le droit de penser que le off ne sert pas mes intérêts, de toute façon personnellement j'en ai pas, mais une logique, disons, de liberté, d'impertinence, de trucs. Enfin franchement, pourquoi s'en priver ?
Eric, est-ce qu'il y a un risque que le off absorbe le in ?
Je lui en recède quelques-uns, je ne les citerai pas.
Je pense qu'on aurait beaucoup de problèmes à les absorber. Ils sont nombreux et puis ils ont beaucoup trop d'argent pour nous. Je pense qu'on ne saurait pas comment le gérer.
Vincent, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc Vincent Palazio, vous montez un festival Fossé à Rock, un projet de festival. Emmanuel Germont, vous êtes artiste, on signalait le Festival International du Film Tchian, mais vous avez aussi envie de faire des films dans le métro, et puis je crois que vous avez quelques idées urbanistiques aussi. Pourquoi vous avez choisi le off pour mener vos projets ? Alors, Vincent Palazio.
Bonsoir à tous. Je tiens à préciser à vos auditeurs que je ne suis pas Vincent, je fais partie de l'équipe de Fossé à Rocks, mais il ne va pas tarder à arriver. Je me permets de le remplacer car je participe à la production et à la communication du festival. Donc le festival Fossé à Rocks.
Mais dites votre nom alors.
Jean-Baptiste Loa. Voilà, moi, je fais ma petite pub. En fait, il s'agit d'un festival de longue durée, de 2 mois, qui aura lieu à l'été, donc une période assez creuse généralement à Marseille, dont plusieurs salles de ce qu'on appelle le plateau à Marseille, donc le Courvoisien et la Plaine. Il s'agit d'une programmation éclectique de groupes locaux, donc de groupes du département, dont l'objectif est de mettre en avant en fait, le dynamisme d'une scène locale, montrer que le rock ici, que Marseille est aussi un centre névralgique de la musique rock en France.
D'accord. Et pourquoi faire ça dans le cadre du off ?
Parce que c'est pas une manière de contrer le in, mais on a l'impression que vu qu'on développe un aspect assez underground et qu'on veut contrer certaines formes de mainstream, de domination d'une pensée un peu toujours le même rock, la pop rock, nous on voulait aller dans des choses un peu plus noise, psyché, garage, hardcore, des musiques actuelles qui n'ont pas qu'on entend rarement à la radio, dans les médias et tout ça, on a pensé que le off était plus à même de nous donner place et de nous...
Plus proche au niveau esthétique.
Voilà, alors, plus proche de nos valeurs et de notre esthétisme.
D'accord. Et Emmanuel Germont, alors.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes bien Emmanuel Germont.
Ouais, je vous le dirai pas.
Donc la question, c'est pourquoi avez-vous choisi le off pour mener vos projets 2013 ?
Ah, en fait, déjà la collaboration...
Hop, c'est bon ?
Ok. La collaboration, elle est double parce que il y avait déjà... Parce que j'ai des projets qui n'ont pas été... Enfin, je sais pas, j'ai jamais été voir les gens du IN et puis j'ai rencontré assez naturellement Eric autour des projets. Donc voilà.
Pourquoi vous n'êtes pas allé voir les gens du IN ?
Je sais pas, c'est trop compliqué. J'avais envie de faire des choses, je les ai fait. Et puis en l'occurrence, Eric était pas loin. Puis on a dit, bah, on les fait ensemble, on va s'aider. Et puis il m'a donné une visibilité. Souvent, ça a permis que ces choses-là arrivent. Je pense à une campagne, une première création qu'on avait fait ensemble en 2007, une association. Et puis là, pour le festival, c'est la même chose. C'est parce qu'eux existaient que ça m'a donné un peu, avec leur encouragement, l'envie d'aller un peu plus loin et de savoir que j'allais avoir cette visibilité. Et la deuxième chose, c'est que même si j'avais eu des projets qui avaient été, sollicités par le IN, Eric a été gentil avec le IN, mais il y a de toute façon des énormes lacunes qui font que des gens peuvent être frustrés par cet événement et qui font que on a des envies complémentaires ou carrément qui peuvent être véhémentes, mais qui peuvent être vraiment surtout complémentaires, c'est-à-dire de programmer autre chose ou de programmer avec d'autres gens, notamment avec des Marseillais, et de façon plus spontanée ou de façon dans des directions artistiques différentes ou des choses comme ça. Et du coup, la plateforme, parce qu'il n'y a pas forcément une direction artistique au off, mais c'est surtout une plateforme qui permet aux gens de réaliser leurs projets. De rencontrer des partenaires, d'avoir une visibilité. Moi, ça a été la possibilité de mettre 6-7 projets et de pouvoir dire aux gens bah, « Va voir, je fais ça. » Et voilà.
Donc, peut-être avant d'écouter, parce que donc il y a le in, le off, l'alter off, le out, mais il y a aussi le front de résistance à l'intoxication culturelle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est des vidéos qui ont été mises en ligne depuis quelques mois. Il y a un site qui s'appelle marseilleenguerre.org. Donc, c'est une guerre contre la culture. On écoutera deux de leurs communiqués. Mais avant, juste pour donner un peu une idée du paysage du off, Eric, est-ce que tu peux nous rappeler, donc, ça a été annoncé officiellement ce soir, l'année 2013 off va se dérouler selon quatre temps. Quatre thèmes, quatre axes de programmation. Il y a Capitale de la Merguez, il y a Poubelle voilà, la ça. Ville.
Alors... Les projets sont arrivés depuis 2004. On a fait le point, on s'est fait aider parce que c'était un peu de la vapeur d'eau autour de nos yeux, de nos oreilles. On n'y voyait pas clair. Donc on a réussi à faire un précipité de tous ces projets qui étaient arrivés sur le site. Et on en a dégagé. On a fait nos axes cardinaux, comme les Roumains font au sol avant de faire leur village. Donc on a tracé cette croix au sol et il y a quatre espaces. Il y a un espace qui s'appelle donc Mytho City, qui est donc Marseille se transforme, Marseille se la raconte. C'est un peu le travail sur l'identité qui est à la fois propre. C'est paradoxe, Marseille se transforme, Marseille se la raconte. Ce sont aussi les paradoxes de la culture. Et donc voilà, ce sont les paradoxes de la culture et de la ville de Marseille. Donc on trouvait que c'était très, ça rentrait en résonance. Il y a donc Capitale de la Merguez ou Merguez Capitale. Donc ça c'est plutôt, on va dire, Marseille. Marseille est un village, Marseille est cosmopolite. La Merguez, elle a un nom différent dans chaque village presque. En Allemagne, elle s'appelle Wurst. À Marseille, elle s'appelle Merguez. Et puis après, derrière, il y a plein de choses. Plein de choses qui viennent illustrer ça. Il y a Poubelle ma ville, donc ville nature, Marseille est sale, Marseille... c'est pas la peine d'expliquer cet axe plus. Et puis le dernier axe, je sèche...
Alors, Poubelle la ville,
Mytho City, Mytho Merguez City et Kalachnikov. Voilà. Merci Jean-François Chounier. Les amis retenus que moi. Donc ça, c'est notre axe social. En fait, la Kalachnikov, c'est un peu la frontière entre l'élite et les quartiers, on va dire.
Bon, bah. Alors, le front des réfractaires à l'intoxication par la culture...
Ils mettent aussi des kalachnikovs sur leurs affiches. Donc.
Ah oui, bon, sur les vidéos, ils n'ont pas de kalachnikovs. Par contre, ils ont des cagoules et ils ont les voix un peu masquées. On sent qu'ils risquent leur vie quand ils font des déclarations telles que celles qu'on va entendre. Je vous propose de les écouter et après, ça permettra d'ouvrir un peu plus largement le débat sur la culture aujourd'hui et ses liens avec les artistes, l'art, la politique, les publics et tout ça.
Marseille est paralysé par une grève de marins contre la énième tentative de casser l'outil qui fait de cette ville une porte ouverte sur le sud. La rue de la République est en train d'être urbanistiquement réhabilitée, c'est-à-dire humainement et socialement désertifiée. Les marchés populaires du Soleil, de la Plaine, des Puces et de Noailles sont sous la menace d'être éradiqué. Le plan littoral et le projet de parc national des Calanques va servir d'alibi au bétonnage et à la privatisation des côtes marseillaises. Marseille 2013 et sa culture hors sol sont conçus par les tromblons qui gouvernent la ville comme une machine de guerre, dit Gondran, le secrétaire général de la ville. Cette guerre est menée contre nous. Contre le Marseille populaire. Alors, Marseille 2013, in ou off, quoi que tu dises, quoi que tu fasses...
On t'a cul !
L'été a été chaud à Marseille. À la porte d'Aix, l'expulsion des Roms ou l'affaire du parking, relayée par une presse aux ordres, ont été le prétexte idéal pour fliquer un peu plus le quartier. Dans le 15e arrondissement, la disparition programmée du marché aux puces n'est que la conséquence la plus visible de l'opération d'urbanisme Euromètre 2. Avec ses propos anticomoriens, Claude Guéant dit tout haut ce que les dirigeants, à l'État ou à la ville, pensent tout bas. La guerre aux pauvres et aux exclus est déclarée. Les slogans vides et creux qu'on nous rabâche à longueur de journée annoncent la couleur. Il faut maintenant vendre Marseille aux plus offrants, à grands coups de croisières et d'hôtels de luxe. Les grands travaux du Silo ou du Mucem sont la face culturelle branchée de cette grande braderie. Nous déclarons que Marseille n'est pas à vendre et que le marketing urbain ne fait que tuer à petit feu l'âme et l'esprit de la ville. Alors Marseille on the move, ta ville accélère, ou ton putain d'esprit client, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on t'encule !
Donc voilà deux exemples des quatre communiqués du front des réfractaires à l'intoxication par la culture. Alors Eric Pringles pour le off, une réaction. Le in, le off, c'est la même chose. La culture, de toute façon, c'est une machine de guerre au service du néolibéralisme qui essaye de tuer le peuple. En gros, c'est un peu ça le message.
C'est vrai, ça l'est. C'est de plus en plus, en effet, un outil au service de on va dire, du capital. Mais on a justement, nous, dans le off, souhaité travailler là-dessus et le rendre... Enfin, on s'en est emparé. Voilà, on s'est emparé, nous, de cette capitale. Alors, c'est vrai que certains d'entre nous, ou peut-être même la majorité, on est peut-être des bobos, ou je sais pas très bien ce qu'on est, mais... En tout cas, on partage ce capital qu'on s'est approprié, on le partage avec le plus grand nombre sans a priori. Donc,
je valide même ces communiqués parce qu'ils me font rire et que je trouve qu'ils sont sortis, ils sont quelque part rentrés aussi dans une certaine forme d'expression culturelle parce qu'ils sont en train de créer un répertoire. Voilà.
Philippe Carrez, on vous a pas donné encore la parole. On sait que de temps en temps, vous avez des prises de parole aussi assez tonitruantes.
Ouais.
Donc, comment vous recevez ce type de déclaration?
Ben, moi, ce qui est con, c'est que ce type de déclaration, je la reçois difficilement sur une bande. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé avoir les mecs en face de moi, quoi. Voilà. Après, on discute. C'est bien. Enfin, je veux dire, le dialogue, il est justement pour être en face de gens et discuter avec les gens, quoi. Et je crois
Là, la forme, c'est des messages qui sont envoyés sur Internet. Hein, donc on le fait entendre tel qu'on les reçoit.
Je comprends bien, mais je sais pas. Ça renforce un peu le côté paranoïaque des Marseillais, quoi. Parce que c'est vrai que cette ville, elle est à la fois ouverte, elle est totalement paradoxale tout le temps, depuis toujours. Et là, on est dans une espèce de truc totalement parano. On nous en veut. On souffre de ça, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est effectivement l'image de cette ville, et on souffre terriblement de ce type de discours complètement. Mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que c'est, bon, comme tu dis, à la fin, ils ont ton cul, donc c'est très bien, on reprend en cœur, tout va bien. Je sais pas, moi ça me... je sais pas. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que toutes ces manifestations, que ce soit le in, que ce soit le off, que ce soit l'out... En fait, il y a une telle fébrilité à Marseille autour de tout ça, c'est simplement parce qu'en fait, on a été en manque pendant un siècle. C'est-à-dire qu'il s'est tellement rien passé dans cette ville. Et les gens, le milieu de la culture, les gens qui sont dans ces univers-là, sont tellement en demande, et sont tellement frustrés de ne pas pouvoir avoir accès à la fois aux outils, à la fois aux lieux, à la fois... On est tellement malheureux que, quelque part même, peut-être que ce qui explique l'émergence de quelque chose comme le off, qui est effectivement arrivé avant même... Enfin, je veux dire, même l'idée même du off, elle est arrivée avant même qu'on sache que Marseille soit candidat. Je veux dire, c'est un truc. Tout ça, c'est parce que simplement, les politiques culturelles de cette ville depuis des années est totalement inexistante. Ou est tellement. C'est tellement la dernière roue de la charrette que forcément, il y a une envie, il y a un besoin. Et ce besoin et cette espèce de nécessité de s'exprimer, ben, du coup elle est là, et je veux dire, c'est flagrant, ce soir c'est plein, quoi. Et c'est vachement réconfortant aussi.
C'est vrai, donc je rappelle que Radio Grenouille est en direct du comptoir Sainte-Victorine et qu'on est là à l'occasion de la présentation à la presse et au public du programme de 2013 off. On est encore là pour sur l'antenne pour une bonne trentaine de minutes. Alors Jean-François Chounier, ben, même question. Alors ce qu'on dit le front de résistance, l'intoxication par la culture, bon, ils le disent avec l'accent, avec la testostérone et puis avec une relation à la sodomie qui semble intéressante, mais il y en a d'autres qui le disent avec un accent un peu plus pointu, tout ça, qui s'inquiètent de la gentrification. Enfin, il y a un groupe de réflexion qui s'appelle Pensons le matin aussi, qui est aussi sur ces thèmes là alors comment vous réagissez soit ces déclarations de guerre, soit ces inquiétudes qui ne disparaissent pas, quoi. Il faut bien constater que ça reste un souci, et il faut bien constater aussi que Marseille, capitale européenne de la culture, arrive dans un contexte de transformation urbaine de cette ville absolument faramineuse, quoi.
Sur les déclarations, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que je pense que pour pouvoir se lancer dans un canular situationniste, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, on est dans la logique du canular situationniste, il faut beaucoup, beaucoup de talent, et bon, j'ai pas entendu quelque chose avec un talent qui m'émouvait beaucoup, mais enfin, laissons tomber cela. Sur le fond, je pense que c'est pas un débat spécifiquement marseillais. La gentrification est un phénomène urbain de toutes les grandes métropoles. Les politiques culturelles sont un peu partout des questions qui sont en train d'être remises, et d'ailleurs c'est fort heureux en permanence au goût du jour. Donc bien sûr que en faisant de la culture aujourd'hui, il faut pas être naïf, on sait très bien que la culture elle sert à des intérêts économiques, elle sert, bon, ça tout le monde le sait, c'est pas d'ailleurs d'une nouveauté fracassante. Voilà, moi je crois que là on est dans un débat qu'on peut tenir pendant des heures et des heures et qui n'est pas forcément, à mon avis, le sujet du jour.
Oui, mais ça se fait, c'est pas une vérité fracassante, mais ça se fait quand même, ce que disent ces personnes-là, au détriment de populations.
Oui, mais c'est un débat c'est un débat assez rhétorique quand même. C'est-à-dire que c'est quand même, on sait à l'avance ce qui va sortir de nos bouches. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne veux pas me lancer là-dedans, parce que je vais faire une défense et illustration du concept de capitale européenne de la culture. Vous n'y croirez pas. De même que si on avait en face de nous les gens qui ont fait ces déclarations, on sait exactement ce qu'ils diraient à l'avance. Je pense que les sujets qui nous agitent ce soir méritent un tout petit peu mieux. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas s'envoyer à la figure pendant des années et des années. Ces choses qui, bien sûr, sont notre quotidien, mais qui sont... qui suppose qu'on les aborde avec beaucoup de nuances, beaucoup de respect aussi, je pense, beaucoup d'écoute et beaucoup de concertation. Je pense que c'est pas en les réagitant en permanence, parce qu'on c'est un peu, ça fait un peu battleur de foire, quoi. Enfin, moi j'aime pas ça, voilà.
Alors Emmanuel Germont veut réagir, ouais.
En fait, on parlait de problème rhétorique, mais il est vraiment français, il est dans le vocabulaire. C'est juste cette histoire de culture. Ce mot, il est... Voilà, tant qu'on est bloqué à ce mot-là, on va dire n'importe quoi. Enfin, ça ne peut pas avancer, quoi. C'est pas du tout ce qui nous intéresse, on sait même pas ce que c'est. C'est juste un gros mot, comme tous les gros mots qui ont été créés ensuite avec musique actuelle, spectacle vivant, tout ça. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qui nous anime, c'est pas du tout ce qui nous a amené à faire des choses, c'est pas du tout ce qui nous fait rentrer dans une salle, dans un concert, ce qui nous amène à faire des shows tous les jours. Donc, en fait, le jour où on enlève ça... Après, on peut recommencer à parler d'émotions et des choses comme ça. Et s'il y a eu un off, c'est certainement, en tout cas si ça a marché, s'il y a eu autant de gens derrière, c'est certainement parce que derrière ces espèces de concepts régaliens, pyramidaux, de ministres de la culture, où on nomme des endroits, des départements avec des intentions clairement fonctionnelles, idéologiques, c'est juste que il n'y a pas du tout cette offre d'émotion, même si elle est aléatoire, même si elle n'est pas ambitieuse, on s'en fout. Et du coup, ça remplit pas un dossier de subvention, quoi. On parle d'autre chose. Et du coup, bah voilà, il y a une terre énorme à occuper. Et du coup, le off le fait. Et essaye.
Il y a un autre gros mot qu'on voulait mettre sur la table dans le débat ce soir, c'est le mot politique, hein, culture politique. Ouais, alors ils sont dans la salle, hein, ils sont un peu discrets, on les a vus ce soir. Il y en avait
ça, tout le monde le sait. Culture, là, si vous parlez avec les gens, là, ils adorent.
Oui, voilà.
Oh là là, culture.
Le truc, cette année 2012, on l'a remarqué, un certain nombre, on l'a remarqué, on est dans une période d'intense. Activité électorale, il y a un premier tour, un deuxième tour, il y a des législatives. Est-ce que dans la proposition que fait le OFF, on a entendu le OUT tenir un discours politique, est-ce qu'il y a comme ça une répartition, le OUT, le discours, OFF, le faire, est-ce qu'il y a une vision, bon, comment les relations alors, avec ce personnel politique local aussi qui est assez particulier, bon,
je vais
à Marseille
parler, je vais parler de politique comme je l'entends moi, c'est-à-dire vraiment plutôt des tuyaux, des routes, des câbles, des choses comme ça. Donc on est en train de connecter différents câbles, différentes choses. Et le OUT va nous aider à réaliser ces connexions. Parce qu'il y a ici au-dessus, là, au premier étage, il y a Smart, qui est vraiment pour moi la révolution pour l'artiste. C'est vraiment l'artiste, c'est un des premiers contrats dédiés aux artistes. C'est vraiment quelque chose qui est à la fois du service et en même temps militant. Donc c'est en raccordant tous ces tuyaux, en essayant de profiter de notre force qu'on est en train d'acquérir, d'arriver à tracer des routes, à arriver à se projeter plus loin. Et c'est ça pour moi la politique. C'est ça qu'on va réussir à faire avec le OFF. Après, il y a la représentation, il y a le pouvoir politique. On va dire que le OFF, il va le tourner en dérision, forcément, puisque le OFF a une programmation décalée. Et donc, on va lancer un candidat. J'aimerais bien qu'on lance un candidat en 2013. Peut-être que Sue Ellen va coucher avec lui, on ne sait jamais. On verra au prochain épisode.
Le OFF candidat au municipal en 2014, donc
non, pas le OFF, non.
Oui, est-ce qu'il y a une proposition aussi? Est-ce qu'il y a une. Est-ce que le OFF, la culture, peut dire quelque chose sur la société? Si on oublie le jeu électoral, est-ce que la culture est là pour ça aussi? Et est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce qu'il y a une couleur politique au sens noble du terme, du OFF, du OUT, etc. ou si, pas? Est-ce que si c'est hors jeu cette histoire?
Si Eric me permet, juste l'histoire du OFF, c'est justement de dire qu'il n'y a pas une politique.
qu'on nomme et qu'on dirige comme ça, mais c'est de mettre une plateforme en route pour dire à tout le monde, faites-le. Donc après, c'est pas une direction artistique, c'est pas des producteurs, c'est une plateforme très efficace qui donne de la visibilité et qui disent, faites-le. Après, ils ont fait des choix, ils ont fait des sélections et ils gardent quand même cette plateforme en action et efficace avec beaucoup de visibilité. Et du coup, les gens peuvent être frustrés parce qu'aujourd'hui, on a affaire toujours à des décisionnaires, comme ça, à des prescripteurs, à des gens qui communiquent par rapport à des lignes. Là, en l'occurrence, c'est de faire quelque chose comme était Internet au départ ou des choses comme ça, c'est-à-dire sans aucune limite.
Concrètement, par exemple, il y a des artistes qui ont un pied dans le in, un pied dans le off. Est-ce que ça veut dire que dans le off, c'est leur côté, la face contre-culture qui va s'exprimer, et dans le in, c'est peut-être la recherche d'une certaine excellence artistique? Est-ce que ça se joue comme ça, ou comment on peut déjà être dans des deux côtés à la fois?
Il n'y a pas de souci à être des deux côtés, il n'y a vraiment aucun souci. Je pense que pour l'artiste, c'est très intéressant. Ça fait, on va dire, deux champs de possibles, deux domaines de visibilité, deux approches différentes peut-être, ou un double salaire, j'en sais rien. Donc non, il n'y a pas du tout de radicalité de ce côté-là. Quant à la couleur, je dirais que c'est un peu entre gris et noir pour l'instant. Donc c'est la somme de toutes les couleurs. Puis on va dire que Fossé à Rock, c'est noir. Donc on commence par le noir. C'est la couleur des pirates.
Moi, à ce niveau-là, ça illustre très bien ce que je disais tout à l'heure.
Sam Kesipi.
Ouais. Pardon. À la conférence de presse, et que rappelait Jean-François Chounier, si je rejoins ses propos, c'est la nécessité de ramener de la complexité. Les choses ne sont pas bipolaires, les choses ne sont pas « je suis pour » ou « je suis contre ». Il faut ramener un petit peu, beaucoup plus de complexité sur ce volet-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, et qu'on va essayer de porter dans le out par le débat. Après, sur la couleur politique... Puisque, a priori, on me colle l'étiquette du politique au sens premier du terme, oui, il y a du débat politique, oui, il y a une couleur politique. Parce que dans les orientations des politiques culturelles, il y en a qui vont penser futilité sociale, il y en a qui vont penser utilité sociale, et il faudrait peut-être penser nécessité sociale. Et tous les courants ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on arrête de parler de la culture comme étant le secteur culturel. Parce que le secteur culturel n'a pas d'unité. Et si on n'arrête pas à un moment donné de parler du secteur culturel avec cette nécessité de défendre le secteur culturel comme un tout, et sans ramener du débat, de la contradiction à l'intérieur, on ne va jamais s'en sortir. Je veux dire, le modèle Malraux qu'on tient depuis 50 ans, on sait qu'il ne marche plus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Seulement, on ne sait pas quelle branche accrocher. Alors du coup, on continue comme ça, tant bien que mal, etc. Alors que du débat, il va falloir qu'on en ait. Il ne faut pas compter sur les politiques représentants. J'entends les représentants. Les représentants vont faire que mettre en œuvre ce que les opérateurs, les acteurs auront demandé, réclamé. Sauf qu'on est tous cloisonnés, chacun par discipline. On nous a tous appris depuis notre naissance à avoir un gros nombril comme ça, en disant, de toute façon, ce qui va faire votre valeur, c'est votre identité artistique et c'est votre singularité. Comment on veut pouvoir être dans des démarches de collaboration, de travail collectif, si on nous apprend que ce qui va faire notre singularité, c'est le fait d'être unique et surtout pas comme les autres. Et si on peut leur marcher sur la tête, tant mieux. Donc je veux dire, il ne faut pas qu'on soit pensé comme les gentils. On n'est pas les gentils, les acteurs culturels. Nous aussi, on a nos responsabilités. Et si les politiques culturelles sont comme ça aujourd'hui, c'est parce que aussi on les a faites comme ça.
Si je peux me permettre, juste une chose, je ne partage pas trop l'analyse qui vient d'être dit. Je pense que le principal problème de l'actualité ou de l'activité culturelle, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui veulent en faire leur métier.
Très bien. On va essayer de poursuivre le out, le in, le off, l'alter-off et même le front des réfractaires à l'intoxication par la culture. On a l'impression que tout le monde court après ce qu'on pourrait nommer le populaire, la culture populaire. Tout le monde se réclame du populaire et je suis plus culture populaire que toi et voilà. Et c'est, ou quand on n'est pas culture populaire, un des enjeux c'est d'être culture populaire. Qui pourrait nous dire ce qu'est la culture populaire aujourd'hui ? Jean-François Chouinier.
Écoutez, s'il y a bien un mot que je n'emploie jamais, c'est bien celui-là. Ça a l'air vraiment, parce que je ne sais pas ce que c'est que la culture populaire. Et je crois que vous, dans l'avant-programme de Marseille-Provence 2013, je crois que vous ne trouverez pas une seule fois le mot populaire. Parce que il y a la culture intéressante, il y a celle qui ne l'est pas. On essaie de la faire le plus intéressante possible. La notion de populaire, on est... Moi, quand j'entends ça, j'entends soit de la condescendance à l'égard de formes qui sont, je ne sais pas lesquelles d'ailleurs, soit un vocabulaire de type showbiz, quoi, du genre on fait un spectacle populaire. C'est-à-dire les choses qu'on a envie de fuir quand même entre nous. Donc je crois que ce n'est pas une manière complètement évidente de poser les questions. Je voudrais réagir un tout petit peu, si vous le permettez, sur la question aussi des politiques culturelles, parce que c'est un débat très intéressant qui a été lancé à l'instant. C'est vrai que les politiques culturelles, elles sont certainement besoin d'être améliorées. En même temps, le modèle Malraux, on dit, il est épuisé. Je voudrais juste rappeler quand même qu'il y a des certain nombre de pays, des artistes grecs, des artistes italiens, des artistes portugais, qui aimeraient bien que le modèle Malraux dans leur pays continue d'exister, et qu'il faut faire un tout petit peu attention à... mais je crois que ce n'était pas le propos de ce qui a été dit. On peut réfléchir à un dépassement. En même temps, il faut faire attention qu'on est dans une phase où ces politiques peuvent être, pour des raisons simplement d'équilibre budgétaire dont on connaît la prégnance aujourd'hui, être mises à mal en très 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 peu de temps. Et donc je me méfie un petit peu de ces débats qui sont intéressants, mais qui me paraissent devoir être bien cadrés dans une réflexion qui est une réflexion de croissance et pas une réflexion de réduction. Voilà, c'est ce que je me permettais de dire sur un débat extrêmement, extrêmement important.
Alors, je reviens un peu en arrière, alors puisque cette relation entre culturel et politique, je crois que dans les années 70, tout le monde... On considérait que tout était politique, manger une cuisse de poulet, s'embrasser de telle façon, tout était politique. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est devenu culturel. Quand on voit les programmes de Marseille Off ou de Marseille Capitale Européenne de la Culture, il y a de la promenade, il y a de la cuisine, il y a de l'urbanisme, il y a du ricochet, il y a vraiment tout, il y a de la voiture, il y a des courses de voiture, enfin, il y a du football, enfin, bon, il y a tout est devenu culturel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Est-ce que vraiment tout est devenu culturel ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport aux politiques, ce tout culturel ?
Oui, c'est vrai que tout est devenu culturel. Bon, le mot culturel, je crois qu'il y a un philosophe américain qui a fait un bouquin, ça faisait 563 définitions, je crois, du mot culturel. Donc, le mot culturel, on l'emploie, on dit la culture d'entreprise, on dit des choses, d'ailleurs, qui peuvent paraître, à mes yeux, ça m'écorche un peu les oreilles d'entendre ça. Personnellement, j'aime pas beaucoup ça. Je pense que c'est, là encore, le débat est pas tout à fait là. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je trouve, extrêmement importantes. C'est une récupération finalement par la réflexion sur la culture et sur l'art d'un certain nombre de phénomènes de société. Parce que le mot culture, beaucoup de gens l'emploient comme synonyme de civilisation. Pourquoi pas d'ailleurs ? Les anglo-saxons disent culture à la place de civilisation et ils n'ont pas complètement tort. Donc, en revanche, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il est bon que les politiques culturelles, c'est-à-dire celles qui sont censées développer la réflexion autour de la culture et de l'art dans la société, élargissent leur champ au-delà des arts traditionnels, peinture, sculpture et littérature. Oui, bien sûr, il le faut. Et ça, c'est. Moi, je suis un enfant de la génération Jacques Lang. Je ne me renierai pas. Lang a apporté. Il a d'ailleurs été énormément critiqué par les tenants du traditionalisme dans les débuts des années 80. En disant la cuisine, c'est culturel, la mode, c'est culturel, le design, c'est culturel. Il a apporté des choses aujourd'hui que toutes les familles politiques revendiquent et qui me paraissent, du bon sens, honnêtement.
Il y a de belles affiches dans le hall sur la capitale culturelle du Hof. C'est ça la ligne du Hof en matière de culture. Tout est culture.
Nous, on a surtout la culture du 13. C'est vraiment le 13 qu'on entretient le plus depuis le début. Et c'est parti de ça. Non, on va dire que le Hof, c'est avant tout une création artistique, je pense, qui est en train de se transformer en quelque chose d'un peu plus grand. Mais c'est pas vraiment de la culture, peut-être que ça deviendra de la culture, mais
on s'appuie sur ce label capital culturel, mais pour nous, ça ne veut rien dire. Pour nous, c'est un peu comme une boîte de soupe Campbell, on va dire. C'est un objet à travailler, quoi.
Si je dis le off, c'est, en fait, c'est plus un procédé, un processus, une façon de faire. Le rapport au public, on parlait de ça tout à l'heure. Est-ce que le off se pose la question du public du off ou est-ce que le public le off et acteur aussi?
C'est vrai qu'on commence à se poser la question, mais c'est vraiment très récent. Avant cela, c'était simplement avoir de la qualité dans les échanges, tout simplement. Avec n'importe qui, simplement. Ça, c'est peut-être un des talents de l'artiste, c'est de savoir justement... à agrémenter tous les rapports de choses délicieuses et de cultiver, voilà, peut-être le mot il est réapparu, cultiver le plaisir, le savoir échanger et le savoir vivre ensemble.
Et sur la notion de culture populaire, donc Eric, est-ce que tu aurais des choses à dire? Et peut-être aussi Philippe Carrez là-dessus, est-ce que vous êtes du même avis que Jean-François Chounier, c'est-à-dire que mot valise, ça ne veut rien dire, ou vous avez des idées plus précises?
Non, moi j'ai pas trop d'idées sur culture populaire, je sais pas trop ce que ça veut dire, ce que ça renferme, je passe la parole.
Non, c'est... c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, Marseille est une ville populaire. Ça, on ne peut pas passer à côté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des comportements qui sont des comportements qui ne sont pas forcément élitistes, qui sont des comportements qui sont des comportements humains du quotidien, qui sont des comportements humains de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui donc qui sont des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller chercher la culture très loin. Tout ça, c'est le terreau marseillais traditionnel. Donc quelque part, moi, qu'on dise que des manifestations culturelles s'adressent au peuple, on n'attend que ça, quoi. Je veux dire, et le peuple n'attend que ça, puisqu'en fait, jusqu'à présent, ils n'avaient pas droit à grand chose. Donc qu'on fasse quelque chose qui soit accessible pour le plus grand nombre, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est vrai que on s'est trop retrouvé effectivement pendant des années, mais il y a peut-être de ça 20 ans, sur des choses qui étaient tellement élitistes que personne n'y comprenait rien, mais il y avait juste une espèce de caste qui disait oui, mais ça c'est de la culture, parce que justement on n'y comprenait rien, c'était vachement pratique. Nous ici, il faut voir le terreau du peuple marseillais, il faut voir qui on est, quoi. Et donc il faut voir comment tous ces événements qui vont arriver, qui sont des événements festifs, qui sont des événements ludiques. Et je crois que ce qui fait la force aussi de proposition du off, c'est que justement, ça part sur des objets qui sont des objets à la fois qui font des fois un peu canular, mais qui à la fois sont finalement populaires. C'est-à-dire, Capitale de la Merguez, moi, pour moi, c'est un truc qui m'éclate complètement. Capitale de la Merguez, en fait, l'idée, en gros, c'est le 23 septembre 2013, en fait, il y a une ligne Maginot, tout le monde sort son barbecue devant chez soi, et en fait, on fait une ligne continue de merguez qui va des quartiers nord au roi d'Espagne. Et chacun fait ses merguez devant sa porte. C'est ludique, c'est plutôt rigolo, c'est un peu provo, mais à la fois, c'est un moyen pour les gens de se rassembler, c'est un moyen pour les gens de se retrouver ensemble. Et je crois que la force du off et la force de proposition du off... moi, je parle du off parce qu'en fait, je suis un petit peu concerné par le truc et je suis ça depuis le début. Ce qui est vachement intéressant, c'est ça. C'est que c'est à la fois quelque chose qui est festif, quelque chose qui est un peu décalé, quelque chose qui est malin et quelque chose qui est ouvert, surtout. Et je pense qu'en fait, aussi, ce qui se passe, c'est que... ce qui s'est passé avec l'off, qui a fait que l'off est ressorti assez rapidement, c'est que au tout début... C'est pas moi. Au tout début du IN, il y a eu une espèce de nébuleuse par rapport à l'organisation du IN qui a fait qu'on ne savait pas trop ce que c'était. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop comment y accéder. Il y avait un manque, je pense, il y a peut-être un déficit de communication de la part du IN qui faisait qu'on ne savait pas où aller. Et d'un seul coup, il y a ce truc, le OFF, qui est arrivé, qui est un espèce d'appel à projet où on pouvait arriver dessus. Et je pense que ce qui a fait que le OFF est vraiment sorti à un moment donné, c'est que ça correspondait à un besoin et à une plateforme sur laquelle on pouvait venir enfin raconter des choses et rencontrer des vrais gens. Je crois que c'est ça, en fait. Et des vrais gens qui, en plus, étaient d'une culture qui était effectivement peut-être plus populaire qu'une espèce de caste de gens qui sont dans la culture de manière professionnelle, je crois.
Question aussi sur la dimension européenne. Alors, le off, capitale européenne de la culture ou pas ? Est-ce que c'est une réaction localiste ? Est-ce que c'est une réaction marseillaise ? On a compris qu'il y a
Il y a un petit peu de tout. Moi, je suis né en Belgique. J'arrive avec un petit peu de surréalisme dans la valise. Et après, au début, il y avait un Parisien, puis deux Marseillais. Puis c'est un gros mélange. On va dire que c'est européen par nos origines et puis par les petites valises qu'on a amenées. Mais on est tous amoureux de cette ville et passionnés par cette ville. Et on va accueillir l'Europe entière, oui, même de l'autre côté de la Méditerranée.
J'ai animé il n'y a pas longtemps Sam, des Têtes de l'Art.
Kézibi, Têtes de l'Art.
J'ai animé il n'y a pas longtemps un séminaire européen sur les médias participatifs. Et il y a des participants de 8 pays européens, donc au CICE, qui sera notre renvoi pendant la capitale. Et c'est clairement une ville qui fascine. C'est-à-dire que la rencontre de ces participants de 8 pays dans les quartiers populaires de Marseille, parce que c'était l'exercice d'Aix, de Salon, etc., a marqué une vraie fascination mutuelle. C'est-à-dire que le travail dans les quartiers marque aussi cette idée qu'on ne s'intéresse pas au quartier pour l'enfermer sur lui-même, et bien pour l'ouvrir. Et oui, quand la rencontre européenne, elle se fait, elle marche terriblement et dans un rapport de fascination mutuelle. Il y a vraiment... on a des retours des participants de Hongrie, de Lettonie, de Košice. Enfin, vraiment, c'était hallucinant, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu de ça. Et pour revenir sur la perche que tu tendais tout à l'heure sur la question de culture populaire, il faut peut-être déjà juste changer le sens. Ça permettra à un moment donné d'arrêter d'avoir envie d'en parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être juste qu'on arrête de proposer des choses aux masses laborieuses en disant « Regardez ce qu'on vous propose !» Et juste qu'on leur dise « Je m'intéresse à toi, qui tu es ?» D'abord, commencer par s'intéresser aux gens, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, et ensuite, est-ce que tu veux faire un bout de chemin avec moi et je vais te montrer ça, ça et ça. Ça, c'est un petit peu le petit décalage politique, justement, sur la question de culture pour ou culture avec, qu'on a essayé de penser plutôt pour chacun ou pour tous. Mais si on pensait un peu la culture avec les gens à partir de ce qu'ils sont, on aurait quand même moins de débats sur la question de la culture populaire.
Et peut-être moins de gens qui s'en réclament, parce que beaucoup de gens se réclament toujours, c'est nous qui sommes les plus près du peuple. Pour revenir à ce que disait Philippe Carrez tout à l'heure, non mais c'est une question, Eric, mais Philippe disait tout à l'heure, une plateforme où on s'est rencontrés, vraiment, où on fait la fête, tout ça, c'est festif. Ça veut dire que finalement, le off, il n'y a pas d'enjeu. Tous les enjeux sont pour le in, développement du territoire, attractivité, économie, machin, tout ça. C'est le in, c'est la grosse machine, c'est le truc bien lourd, bien chiant, la culture, ça fait mal à la tête. Et le off, c'est bon, il n'y a pas d'enjeu, on est juste là pour s'amuser.
On essaie de garder ça, en effet, de pas se mettre la pression avec les enjeux. Malheureusement, je pense que le in nous a foutu la pression, malheureusement. Et puis nous, on s'est mis aussi dans une position voilà, où il a fallu qu'on réponde, qu'on soit présent. Mais bon, on le fait avec nos moyens et donc voilà, on essaie de garder la tête froide et de continuer avec humour, avec ce décalage qu'on a qui commence à devenir un peu presque une marque de fabrique.
On parle de moyens à la fin de la conférence de presse ce soir. Il y a eu le mot de la fin, c'était attention les choses sérieuses, le fric, l'argent. Alors il y a le Gaston que va créer le HOF, mais il y a la nécessité aussi de financer, de trouver de l'argent. Est-ce qu'il y a un rapport particulier là que vous voulez inventer avec des financeurs, avec cet argent qui pèse lourd?
Parce que vous annonciez que vous alliez voir les collectivités publiques en ce moment pour leur donner des subventions. Comment on fait quand on dit on est une manifestation, on a juste envie de faire la fête, on n'a aucun enjeu, comment on fait pour qu'ils donnent des subventions?
Ben, on est des artistes, hein. On arrive à le faire en tant qu'artiste. on va essayer de se servir de ce Gaston. Alors il n'est pas encore, il est toujours en prototype. L'idée nous est venue, c'était là, si on parle vraiment de quelque chose de populaire, ben, y a rien de populaire que l'argent, ça circule dans toutes les poches. Donc l'idée, c'était de rajouter une petite couche visible sur une pièce d'un euro et de le transformer du coup en Gaston, de matérialiser un petit supplément d'âme qui peut du coup aider, soutenir les artistes, soutenir la création, soutenir tous ces acteurs dont énormément sont ici ce soir, et participer, puisqu'il y a aussi ce débat sur le financement de la culture, donc il ne faut pas se voiler la face. Tout ça tourne autour de l'argent, donc on est allé au plus près du bout de métal.
Et on va essayer de lui filer une petite claque comme ça, de se clipper dessus. Du coup, on peut aller chez le commerçant, on peut lui dire si tu veux participer à Marseille 2013, peut-être que ça te coûte 200 euros. Tu nous achètes 200 Gastons et puis tu les donnes. Tu vas pas les donner dans un fonds où tu verras pas à quoi ça sert. Non, tu le donnes à ton client. Tu lui dis ça, c'est pour toi, ça, c'est pour. Aller voir un spectacle, ça c'est pour peut-être même aller boire un coup dans un lieu sympa où il y a des tableaux, où il y a des choses comme ça. Donc ça reste vraiment au coin de la rue, de gré à gré, de personne à personne.
Le HOF a mis des PME et du petit commerce, c'est ça ?
Des TPME et des très petits commerces.
On arrive au terme de cette émission, 2 minutes. Alors, la suite de la soirée, peut-être Eric, tu vas pouvoir nous dire les quelques rendez-vous qui viennent pour le HOF dans l'année et peut-être annoncer le groupe qui va jouer. Là. Donc, je vous rappelle, on est au comptoir Sainte-Victorine, vous écoutez Radio Grenouille, on est en direct et en public et il y a toute la soirée qui continue à l'occasion de la présentation de la saison HOF 2013 avec soirée rock, ensuite DJ, du vin à boire, des bonbons Haribo à manger. Alors Eric,
je vais commencer par le plus important pour l'off, c'est le 22 mai à la Boate, donc faut qu'on se voit entre PME et porteurs de projets, entre TPME et petits porteurs de projets, il faut qu'on arrive à réaliser ces projets ensemble, donc à la Boate le 22 mai. Avant cela, il y a le Festival international du film chiant du 20 avril au 24. Avec deux temps forts, 21 et 24, au cinéma Les Variétés. Et ensuite, il y a le Kino Fada Festival, ici même, comptoir de la Victorine, à Califourchon, entre avril et mai. Voilà, il faut vous rendre sur le site, vous verrez toutes les infos. Voilà pour les. Et ensuite, le reste va arriver petit à petit sur notre site.
Sam Kezibi pour le Out, oui.
Le premier débat du Out aura lieu le 11 mai pour l'ouverture de la belle fête de mai. Fête marseillaise, s'il s'en faut. Et le premier thème sera « La mienne est plus grosse que la tienne » de culture.
D'accord, merci. Alors, je suis désolé, mais Vincent Palacio est arrivé en cours d'émission. On n'a pas réussi à lui passer le micro, mais par contre, on peut peut-être te donner le mot de la fin, Vincent.
Ah, c'est gentil, merci. Écoutez, je pense franchement que c'était un faux débat, cette discussion, parce que... Comment dire, la culture, elle est là où on la cherche, tout simplement. Et je pense intrinsèquement que tous les gens sont producteurs de culture, tout simplement. Il suffit de voir ce qui se passe et ensuite de le proposer de façon œcuménique aux gens. C'est pas quelque chose qu'on va imposer, tout simplement. Là, par exemple, le projet Fossarox, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est contenté d'écouter, tout simplement. Et on s'est rendu compte que à Marseille, il y avait déjà plus d'une soixantaine de groupes de rock, d'artistes, c'est-à-dire de gens qui préfèrent se sacrifier pour leur art plutôt que d'avoir une vie tranquille et ranger les voitures. Et voilà le mot de la fin pour moi, tout simplement.
Voilà, donc un grand moment d'œcuménisme avec le Fossea Rock Festival. N'hésitez pas. Donc merci à tous les participants. Donc Sam Kezibi des Têtes de l'Art et du comptoir Sainte-Victorine, que j'appelle Kezibi, mais en fait c'est Kebizi. Kebizi, pardon Sam. Eric Pringles du HOF, Philippe Carrez, parrain du HOF et père de Martin Carrez du HOF. Jean-François Chounier, directeur de Marseille Provence 2013, Emmanuel Germont, artiste, et Vincent Palacio du Fossé à Rock. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Il y avait Michel Guéraud du Ravi, donc le Ravi qui animera les débats du Out dans les semaines qui viennent. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à venir sur place, donc Saint-Mauron, comptoir Sainte-Victorine pour la suite de la soirée. À bientôt sur les 3-8. Et c'était Sébastien Djilali à la technique. J'ai failli encore les oublier. Merci Sam et Djilali.